Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, l'info éco.
BFM Bourse, c'est la deuxième heure là qui s'enclenche. On est à vos côtés jusqu'à 18h auparavant. Puisqu'il est un peu plus de 16h, on va parcourir l'ensemble de l'actualité au-delà des marchés grâce à Marjorie Adelson. Bonjour Marjorie.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous. On commence avec Gabriel Attal qui réaffirme sa détermination sur l'emploi. Le Premier ministre est sorti il y a quelques instants du séminaire qui se tenait à Matignon sur le sujet. Il affirme que l'engagement du gouvernement pour l'emploi et les bas salaires est total. L'objectif est toujours, selon les éléments de langage utilisés depuis plusieurs semaines, la désmicardisation du pays. Pour rappel, Gabriel Attal sera ce soir à 20h sur TF1. Il devrait faire des annonces sur l'assurance chômage, mais aussi sur les efforts budgétaires à fournir. Et justement, Moody's juge improbable que la France abaisse son déficit à 2,7% d'ici 2027. C'est ce que l'agence de notation déclare au lendemain de la confirmation du dérapage à 5,5% du PIB contre les 4,9% attendus. C'est pourtant ce chiffre que continue de maintenir Bruno Le Maire, qui veut se montrer rassurant. L'agence, en revanche, se montre pessimiste pour 2024 également. Elle affirme que malgré les économies de budget, il est improbable aussi que le déficit de 4,4% soit tenu cette année. Vous l'avez compris, donc, le gouvernement est scruté et sous pression. Et le Sénat a décidé d'enquêter sur cette situation via une mission parlementaire. Concrètement, il s'agit de comprendre comment la situation a pu se dégrader et de quelle manière cela a été suivi par le gouvernement. Cette décision intervient alors qu'il y a quelques jours, le rapporteur du budget au Sénat s'était alarmé d'une rétention d'informations de la part du gouvernement. Au chapitre des entreprises, nouvel épisode dans la saga Casino. La nouvelle direction prend les rênes aujourd'hui. Le nouveau conseil d'administration sera nommé d'ici ce soir. Et dès demain, le nouveau PDG, le nouveau DG, Philippe Palazzi, se rendra au siège historique à Saint-Étienne pour rencontrer les salariés. Le premier dossier à gérer sera bien évidemment le plan social. Renault cède un autre bloc d'action à Nissan. C'est le deuxième en moins de 4 mois. Le constructeur français a annoncé qu'il lui cédait environ 2,5% du capital dans le cadre du détricotage de leurs liens. Nissan va donc les acheter et les annuler. Cette cession entraîne un flux de trésorerie de 362 millions d'euros, mais une moins-value pouvant aller jusqu'à 450 millions d'euros pour Renault. L'opération permettra d'accélérer le désendettement. A noter par ailleurs que Nissan indique qu'il investira dans Ampère, la filiale électrique de Renault, indépendamment de l'IPO. On termine avec Blackstone qui a investi 750 millions d'euros dans Moderna. La plateforme d'investissement soutient la société dans le développement de ses vaccins antigrippaux. Depuis la fin de la période Covid, Moderna travaille en effet sur de multiples vaccins pour compenser la baisse de ses ventes.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Le prisme des marchés, c'est par cette fenêtre qu'on vous propose de voir le monde chaque jour de 15h30 à 18h. BFM Bourse à vos côtés, grâce à tous nos experts mobilisés. Aude Kersulek notamment est avec nous, la Tour Euronext, la salle de contrôle du CAC 40. Aude, on est ravis de vous retrouver, d'autant que, mine de rien, c'est une séance historique, nouvelle séance historique qu'on est en train de vivre à Paris.
Oui, 8230 points atteints tout à l'heure, mais je vous parlais des records à Paris et sur le DAX, mais j'ai fait des jaloux parce que il y a plusieurs autres indices qui vivent aussi des plus hauts historiques. Il y a l'Eurostoxx 50 qui a 5095 points, il y a le Stoxx 600 également, et aussi l'indice de la Bourse de Milan. Donc en fait, il se passe pas grand-chose sur les marchés, mais il se passe quand même des choses parce qu'on continue d'évoluer encore un petit peu plus haut.
Oui, de nouveaux records, donc une avalanche de nouveaux record sur les indices, même si les variations, c'est vrai, restent assez faibles. On gagne à peine 0,4% sur le CAC 40, mais enfin, c'est suffisant pour nous amener sur des plus hauts. Et sur les 10 dernières séances, figurez-vous que le CAC ne fait quasiment rien. Pas plus de 129 points d'écart sur les 10 dernières séances, entre le plus bas et le plus haut. C'est l'écart 10 séances le plus faible en quasiment 4 ans. Sur notre indice CAC 40, on va parler de cette absence de volatilité, bien sûr, avec nos experts tout au long de l'après-midi. Pendant ce temps, en Allemagne, les perspectives ne s'améliorent pas. Les principaux instituts économiques allemands dégradent très nettement leurs perspectives, leurs prévisions sur la croissance allemande pour 2024. On va aussi en parler. On se demandera si la BCE ferait bien d'accélérer son calendrier de baisse de taux. Puis on parlera aussi de certains actifs, certains au plus haut. On évoquait le CAC 40, l'Eurostock 50, le cacao aussi sur des plus hauts historiques, le cacao à quelques jours de Pâques. On en parlera tout à l'heure dans la Data Room à 17h25 des cours du cacao, les perspectives sur le cacao. Et puis à l'inverse, certains actifs sont sur des plus bas ou des quasi plus bas historiques. C'est le cas de la devise japonaise, le yen, et sur des plus bas de 34 ans, malgré la hausse de taux annoncée la semaine dernière par la Banque du Japon. Bizarre de voir le yen sur des plus bas de 34 ans alors que les taux japonais remontent. On essaiera de vous apporter des explications et des éclairages sur ce point un petit peu technique. On en parlera notamment à partir de 16h30. On est à vos côtés. Bienvenue à tous. On joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et si vous avez raté la précédente demi-heure de BFM Bourse, on évoquait aussi un autre titre au plus haut historique, Merck, dans l'univers de la santé. Merck progresse aujourd'hui à Wall Street de quasiment 4%. John Plassard nous expliquait pourquoi. C'était à 15h35. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible. Vous pouvez le retrouver sur notre site bfmbourse.com. On est en hausse, donc on le disait haute. C'est vrai, une petite hausse un peu partout, rien flamboyant. On est vraiment sur une période de marché relativement calme, mais dans ce calme, on s'offre quand même aujourd'hui de nouveaux records.
Et oui, comme on est plus haut, on va à chaque fois, même si on monte, on va un petit peu plus haut. Bon, on n'a quand même pas dépassé les 8250, hein, qui reste une grosse barrière psychologique. Donc le nouveau plus haut, c'est 8230 points. On est un petit peu redescendu, 8216 points pour le moment, avec une hausse de 0,4% sur le CAC 40. Une hausse aussi sur les autres indices européens, notamment le DAX, hein, qui prend 0,6%, l'Eurostock 50 plus 0,4%. Seul l'indice de Londres a un petit peu plus de mal, hein, depuis le début de journée. Alors, on a eu quelques indicateurs macroéconomiques ce matin en Europe, hein, sur les indices de confiance, notamment l'indice de confiance des consommateurs de la zone euro qui est ressorti à moins 14,9 en mars. C'est toujours négatif, mais c'est mieux que le mois d'avant. Donc, c'est un progrès. Et puis, l'indice du sentiment économique aussi de la zone euro qui est lui à 96,3. Il a progressé de 0,8 points donc sur le mois de mars. Voilà peut-être ce qui a fait progresser encore nos indices aujourd'hui. Alors pourtant il se passe pas grand-chose, notamment à l'intérieur des indices, notamment au niveau des valeurs, hein, parce que sur le CAC c'est Orange qui n'est pas la plus grosse capitalisation quand même, hein, de l'indice parisien, qui monte le plus 2,11% à 10,85 €. On retrouve aussi Carrefour qui n'avait pas passé une bonne journée hier avec la vente, hein, notamment d'un bloc d'action de la part de la famille Moulin. Et finalement aujourd'hui il y a des investisseurs qui se repositionnent, plus 1,5% pour Carrefour. Schneider, c'est la plus forte baisse. À noter sur le marché parisien, l'action Casino, on en avait beaucoup parlé. Alors, elle est plus sur le SBF 120, mais elle est suspendue aujourd'hui par Euronext en attendant que le conseil d'administration, qui va se réunir dans la journée, eh bien, examine l'achèvement de sa restructuration financière. Donc, il y aura sûrement des annonces. Donc, voilà cette annonce, cette action suspendue pour Casino. Et la plus forte hausse du SBF, c'est EuroAPI. On est dans la pharma, on monte de 7,1%, juste devant Atos qui prend 4,6% oui, aujourd'hui à 1,80 €.
C'est un peu le retour des morts-vivants, parce que pour le coup Atos sort d'une période, enfin, est dans une période très très compliquée. EuroAPI aussi, hein, qui a enchaîné les gadins plus spectaculaires les uns que les autres. Aujourd'hui EuroAPI effectivement progresse de 7%. Thibaut François avec nous depuis Fastea Capital. Rebonjour Thibaut.
Bonjour Guillaume.
Une valeur qui elle convainc vraiment positivement, elle est en hausse de plus de 15% d'ailleurs aujourd'hui. Alors, c'est pas à Paris. Le titre H&M. H&M a publié ses résultats et une marge brute, notamment largement supérieure aux attentes. Ce titre gagne 15,5%. Est-ce qu'il faut continuer de renforcer H&M dans les portefeuilles, Thibault ?
Bah écoutez, c'est d'abord avant tout une superbe publication pour H&M. Alors la croissance n'est pas folle sur les premières semaines. On est sur des croissances qui sont plutôt légères, autour de 2%. Mais par contre, on a une nette amélioration effectivement du résultat opérationnel et de la marge. À contrario de l'ensemble du secteur ou presque, c'est-à-dire qu'on a quand même un secteur qui est quand même très mal orienté sur l'habillement, notamment en Europe, avec des grandes marques qui font défaut, qui déposent les bilans, qui sont en redressement judiciaire. Et à côté de ça, on a vraiment deux cadors européens qui s'améliorent trimestre après trimestre. H&M, on l'a vu à l'instant, super publication. On a toujours Inditex avec la marque Zara qui est le leader européen. Et qui fait de super publications très régulièrement. Donc nous, on a une préférence pour Inditex, pour le leader, avec Zara qui arrive par la porte ou par la fenêtre à toujours sortir une croissance exceptionnelle et une amélioration des marges. Donc on va dire on place le leader en tête de notre palmarès. Mais c'est vrai que la publication de H&M est vraiment extrêmement rassurante, et surtout les publications les perspectives sur 2024 et 2025 sont particulièrement intéressantes.
H&M, mais vous préférez Inditex quand même?
On préfère Inditex, et effectivement, avec la marque Zara, c'est le leader. Et c'est vrai qu'on a toujours des bonnes surprises sur le leader. Et on pense que c'est encore le leader qui devrait être encore plus performant dans les prochains trimestres.
Il faut qu'on vous interroge aussi sur le secteur bancaire, parce qu'UBS, il y a quelques jours, s'est montré dans une note confiant dans le potentiel des banques françaises, notamment grâce à leur activité de retail. Et depuis, on assiste, Thibault, à une vraie bataille d'analystes autour de ce secteur bancaire. Chacun y va de son pronostic vis-à-vis de Crédit Agricole, qui de BNP Paribas, qui de Société Générale. Et c'est vrai que les perspectives, le potentiel tel que le perçoivent les analystes, est assez divergent selon qu'on parle du Crédit Agricole, de BNP ou encore de Société Générale. Vous, votre point de vue, c'est quoi? C'est que le secteur bancaire est attractif et que l'une ou l'autre a plus de potentiel, ou au contraire, vous restez plutôt distant vis-à-vis des banques?
Alors, je suis d'accord avec l'analyse. Je pense que le secteur bancaire va rebondir. Aujourd'hui, c'est un secteur qui sous-performe depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, tout est réuni pour avoir une surperformance du secteur bancaire. Le retail, en particulier, effectivement, devrait tirer la croissance et les marges des groupes bancaires, et notamment des groupes français dans les prochaines publications. Quand on parle de retail, on parle en France forcément de BNP et du Crédit Agricole. Donc, ce sont les deux banques qui ressortent d'un point de vue retail et d'un point de vue performance du retail sur la partie française. Et si on veut aller encore plus loin et parler encore plus de retail, on peut aller chercher les caisses régionales du Crédit Agricole. Alors c'est beaucoup moins liquide qu'un Crédit Agricole ou qu'un BNP. Donc Crédit Agricole et BNP, c'est vraiment les top players sur la partie bancaire dans le CAC 40. Et si on veut aller chercher un petit peu plus de plus-value et du rendement intéressant sur le marché petite et moyenne valeur, on peut aller chercher les caisses régionales du Crédit Agricole qui sont cotées aussi sur Euronext.
Il aime bien Crédit Agricole, quitte à choisir une valeur bancaire, et vous croyez dans le potentiel de ce secteur. Vous restez avec nous, Thibault. Aude aussi nous accompagne depuis la Tour Euronext. Aude, des valeurs à suivre aussi aujourd'hui en Italie, des valeurs qui se distinguent de l'autre côté des Alpes.
Oui, on reste dans la banque. Alors, Italie et puis Suisse, hein, parce qu'il y a aussi de quoi faire là-bas. UBS, vous en avez parlé, mais UBS qui avait dû surtout l'année dernière sauver son compatriote, le Crédit Suisse, en le rachetant, qui fait le tri aujourd'hui dans les coffres de cette banque helvétique et qui revend des produits toxiques, notamment des produits structurés desquels le Crédit Suisse s'était fait une spécialité. Ça se passe par grappe, hein, et notamment UBS a vendu des produits structurés à Apollo il y a quelques jours. Ça monte pour la banque suisse aujourd'hui à la bourse de Zurich. On monte de 0,14% à 28 francs suisses. C'est une petite variation, mais il ne se passe pas non plus forcément grand chose aujourd'hui sur les marchés. Une autre banque, cette fois-ci en Italie, Monte dei Paschi. Vous savez que cette banque aussi était en difficulté les années passées. L'État italien était monté au capital et là, il se désengage peu à peu. Il veut de nouveau privatiser cette banque. Eh bien, l'État italien qui a vendu 12,5% de la banque, donc Monte dei Paschi, pour 650 millions d'euros. Donc la part de l'État italien tombe maintenant sous les 27% et Monte dei Paschi qui baisse de 0,7% à 4,23 €. Et puis une autre valeur italienne pour terminer, mais on est dans la mode, c'est Tots. Tots, vous savez, qui est en passe de se faire racheter par Elkaterton, qui est un fonds adossé à LVMH, à Bernard Arnault. Et bien un investisseur qui a fait savoir qu'il trouvait que l'offre de Elkaterton n'était pas assez élevée. 43 € par action, pour lui, ça n'est pas un prix équitable. Il faut mettre plus, dit cet investisseur, qui est un fonds Tabor Asset Management. Il faut que Bernard Arnault mette un petit peu plus d'argent s'il veut s'offrir les mocassins à picot. Tots qui perd 0,1% à la bourse de Milan à 43 €.
La bourse pan-européenne, la bourse de Milan qui progresse sur un nouveau plus haut historique. Milan comme Francfort, comme le CAC 40, comme l'Eurostock 50, comme l'Eurostock 600. Flopée de records aujourd'hui en Europe, effectivement, et vous les avez repérés. Aude Kersulek depuis la Tour Euronext, vous nous accompagnez, Aude, tout au long de l'après-midi. Et si de nouveaux records pleuvent, tombent, vous n'hésitez pas bien sûr à casser l'antenne, pirater l'antenne, priorité au direct et aux variations du jour sur les marchés. Wall Street aussi est en hausse. On remercie Thibault François qui nous accompagnait depuis Fastea Capital. D'autres idées de valeur, Sébastien Féjean nous appelle, idée midcap. Bonjour Sébastien. Vous nous apportez, Sébastien, des clés d'anticipation. Demain, Trigano, que les investisseurs particuliers suivent beaucoup, Trigano publiera ses résultats. Ce sera demain soir et vous nous apportez donc des clés d'anticipation. Qu'est-ce que vous attendez pour cette publication, Sébastien?
Alors, c'est juste après la clôture. Oui, on entend plutôt des bonnes choses puisque, encore une fois, Trigano devrait avoir des commandes qui devraient augmenter, surtout des productions. Parce que vous savez qu'ils avaient été victimes de problématiques liées au châssis l'an dernier, qui sont en train de se résorber graduellement. Et donc, on attend encore une fois une croissance des volumes qui devrait être solide dans les camping-cars de l'ordre de plus 5%.
Et donc, il n'y a pas d'élément qui devrait, dans cette publication, permettre de redonner un peu plus de relief au titre. Il stagne depuis 3 mois, ce titre Trigano, Sébastien.
Ah oui, c'est vrai, mais en fait, c'est évidemment toute la consommation discrétionnaire qui est sujette à caution en ce moment, liée évidemment à l'environnement un peu anxiogène pour les consommateurs. Mais ce qui nous intéresse surtout dans cette publication, c'est ce que va dire Trigano à propos du rapprochement potentiel en cours avec donc la branche Mobilhome de Beneteau, qui est évidemment un gros sujet puisque c'est 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et potentiellement évidemment une place de leader en Europe pour Trigano.
Trigano publie donc tout à l'heure ses résultats. Le titre qui stagne depuis 3 mois stagne encore un peu aujourd'hui, sous-performe même moins 0,2% alors que le CAC 40 lui progresse. Comment le marché réagira-t-il sur la publication, notamment en cas de bonne surprise? Est-ce que vous sentez un potentiel de rebond important sur cette valeur?
En tout cas, si effectivement il y a de bonnes nouvelles du côté donc de l'autorité de la concurrence, qui évidemment, vous savez, est toujours un sujet, on aime bien embêter les champions français en France concernant évidemment les problématiques de concentration. Donc ça, c'est le premier sujet, mais encore une fois, si on a des bonnes nouvelles de ce côté-là, on peut imaginer qu'on retrouve des marges de manœuvre assez significatives du côté d'objectifs de cours, qui pour l'instant est fixé pour nous autour de 156 euros. Mais encore une fois, si on a des bonnes nouvelles sur ce sujet, on pourrait aller beaucoup plus haut.
Premier objectif de cours, donc on va le dire comme ça, fixé à 156 euros autour de cette valeur. Trigano publie donc ce soir. Merci pour ces quelques éléments d'anticipation. Sébastien Feijan avec nous régulièrement sur BFM Business pour IDEMI Caps. Et dans quelques minutes, dans une grosse vingtaine de minutes, on parlera aussi du Japon. Alors non seulement parce que le Yen est sur des plus bas de 34 ans, mais aussi parce que figurez-vous que le Japon veut lancer son propre avion commercial d'ici 2035. Il mise sur les nouvelles technologies vertes pour venir concurrencer sur son futur avion commercial. Mais pourquoi pas Airbus, Boeing ou encore les Chinois? Voilà, le Japon, lui aussi, veut lancer son avion. On en parlera donc dans la famille BFM Bourse à partir de 16h30. Le CAC est en hausse, plus 0,4%. Nouveau record historique du CAC 40, c'était il y a quelques minutes, à 8230 points.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Et le Japon, il en est aussi question à travers sa devise, le yen, on le disait, sur les plus bas de 34 ans. Patrice Gautry est avec nous pour l'Union Bancaire Privée. Bonjour Patrice.
On est ravis. Bonjour.
C'est quand même bizarre de voir ce yen à des plus bas de 34 ans alors que la Banque du Japon a annoncé une hausse de taux la semaine dernière. Comment est-ce qu'on explique cette baisse du yen, baisse spectaculaire même de la devise japonaise, Patrice?
Oui, parce que les hausses de taux ont peut-être été un peu moins fortes ou moins prononcées qu'attendu, en ce sens où on sort juste des taux d'intérêt négatifs. Et visiblement, la Banque du Japon avait accompagné ce premier mouvement sur les taux d'un commentaire qui était plutôt du côté des colombes, c'est-à-dire qu'elle était prête à toujours avoir une politique monétaire qui reste accommodante, ce qui fait que les opérateurs, et notamment les opérateurs sur le change, n'ont pas anticipé, je dirais, de hausse rapide et forte de la part de la Banque centrale japonaise. Et donc, en conséquence, au moment de l'annonce, le yen avait relativement peu bougé par rapport au dollar. Et là, ce que l'on a vu ces derniers jours, c'est peut-être des reprises de position courtes, c'est-à-dire vendeuses, de la part de certains fonds spéculatifs, ce qui a permis effectivement au yen de rebaisser de nouveau, alors qu'effectivement la politique monétaire était maintenant en train de resserrer, mais resserrer vraiment très gentiment et très lentement, ces taux d'intérêt directeurs.
Sauf que la baisse du yen, c'est inflationniste pour l'économie japonaise. Est-ce que vous imaginez une intervention sur le marché des changes, une intervention des autorités japonaises?
Alors, la Banque centrale, effectivement, souhaite avoir une inflation durable. N'oublions pas qu'avant la pandémie, le problème du Japon était qu'elle était structurellement donc en situation ou de récession ou, je dirais, de baisse structurelle de l'inflation. Donc, ce que veut la Banque centrale, c'est avoir des salaires réels qui augmentent et avoir une inflation qui se stabilise à 2%. Alors, l'inflation est encore aujourd'hui un petit peu plus de 2%, mais il n'y a pas véritablement peut-être de risque du côté de l'inflation importée.
Bon, On va suivre ça, en tout cas le yen, sur des plus bas de 34 ans. Et pendant ce temps, ici en Europe, le Japon de l'Europe, c'est un peu l'Allemagne en termes démographiques. Et puis, c'est voilà, on a vu ça s'est croisé. Le Japon est désormais troisième économie mondiale devant l'Allemagne. Voilà. Et il se trouve qu'en Allemagne, on a une nouvelle prévision de croissance de la part des grands instituts économiques. Et il faut remarquer, il faut quand même observer que cette prévision de croissance pour 2024, elle est largement abaissée. Les grands instituts économiques allemands passent d'une prévision de croissance d'1,3% cette année à seulement 0,1%. C'est quand même drastique. C'est important comme abaissement de prévision croissance. C'est rare de voir un tel abaissement aussi brutal. Que se passe-t-il sur l'Allemagne ?
Alors justement, il ne se passe rien, ou ce qui se passe n'est pas encore suffisamment négatif pour justifier, je dirais, un optimisme local, tel que vous l'avez évoqué, avec les prévisions qui avaient été émises. L'autre, je dirais, le consensus s'attendait, et nous-mêmes, nous attendons à une croissance nulle, d'ailleurs, cette année en Allemagne, ce qui veut dire que la transition énergétique, la transition du modèle basé sur l'export et avec des matières premières qui sont peu chères, met du temps, bien entendu, donc à bouger. Et la reprise cyclique, telle qu'elle était anticipée par ces instituts allemands, eh bien, ne s'est pas produite, malgré un taux de chômage qui reste faible et des salaires qui sont plutôt bien orientés. Eh bien, on a une consommation qui est plutôt en berne et des investissements qui traînent parce que, effectivement, on a cette transition et ce changement de modèle. Là encore, aussi, on voit qu'il y a un certain optimisme, même dans ces instituts, puisqu'ils attendent l'an prochain une croissance supérieure à 1%, à 1,4%, alors que le consensus et moi-même, je me citerai plutôt sur une croissance simplement au-dessus de 1,1%. Donc encore, pas mal de prudence sur la conjoncture allemande et le modèle allemand est toujours, je dirais, en recomposition.
Merci. Patrice Gautry, chef économiste d'Union Bancaire Privée. Le CAC 40 est en hausse de 0,4% cet après-midi après un nouveau record. C'était il y a à peu près une heure à 8230 points pour notre indice CAC. On y reviendra bien sûr avec nos experts et dans 10 minutes, 10 petites minutes, la famille BFM Bourse.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et chaque jour aussi des idées pour investir responsable. L'ESG à la une à 16h20 sur BFM Business. Alors il vient nous vanter les mérites en bourse de la mobilité décarbonée. Oscar Barrault, analyste action pour Mirova. Bonjour.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. La mobilité décarbonée, on pense par exemple aux véhicules électriques, mais pas que. Ça va ressembler à quoi concrètement ?
Alors la mobilité décarbonée, ça va être beaucoup de choses. Ça va être évidemment les véhicules électriques auxquels on pense à premier abord. Ça va être aussi le rail, ça va être la mobilité hydrogène et ça va être toutes les infrastructures qui vont sous-tendre cette transition. Évidemment, ça va être en premier lieu les véhicules électriques. Alors on voit que le transport, c'est une part importante de nos émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, dans les accords de Paris, le transport figure en premier lieu comme un des leviers pour décarboner. Et le président Macron a d'ailleurs communiqué que la France avait baissé de 5% ses émissions en 2023, d'ailleurs liées à la transition vers le véhicule électrique. C'est aussi, ça rabat complètement les cartes du secteur automobile traditionnel avec les chaînes de valeur qui sont perturbées et la compétition chinoise grandissante dans ce secteur-là, mais ça crée aussi de nombreuses opportunités dont on va sûrement parler.
D'accord, mais l'électrification des véhicules pourrait aller finalement peut-être un peu moins vite qu'espéré. On voit que c'est peut-être pas très rentable, les véhicules électriques. Il y a une concurrence croissante, des prix des véhicules électriques qui baissent, qui sont amenés à continuer de baisser. Peut-être même les prix des véhicules électriques passeront-ils sous les prix, les tarifs des véhicules thermiques. Bref, est-ce que tout ça risque pas malgré tout de ralentir le développement de tout ça et donc peut-être de rater certains objectifs?
Alors c'est possible à court terme. On voit d'ailleurs que les grands acteurs du secteur automobile des deux côtés de l'Atlantique font un petit peu glisser leurs objectifs d'électrification vers la deuxième partie de la décennie. Malgré tout, pour nous, la tendance, elle est robuste et elle reste très saine. Pourquoi ? Parce qu'on voit que la pénétration des véhicules électriques est en très forte hausse. Elle était autour de 6% au niveau global en 2021, en 2023 autour de 10%. Cette année, on devrait être autour de 15% tiré par la Chine. Mais surtout, les constructeurs automobiles investissent massivement pour faire évoluer leur empreinte de production vers les véhicules électriques, avec comme objectif évidemment d'aller chercher le break-even et de pouvoir aussi offrir de plus en plus de véhicules abordables pour contrer, on va dire, la compétition chinoise et apporter une offre qui est cohérente.
Alors justement, quitte à investir dans les mobilités décarbonées du futur en bourse, on le fait comment ? On le fait en achetant des constructeurs européens, sauf qu'il y a la concurrence de BYD et des Chinois, ou on le fait plutôt par d'autres acteurs, d'autres supports ?
Absolument, Guillaume. Alors, on va regarder évidemment les acteurs du secteur automobile, mais on va regarder aussi dans d'autres endroits de la chaîne de valeur, avec comme focus évidemment la capacité d'innovation et technologique et la valeur ajoutée de ces acteurs. Pour nous, un secteur qui prend une place grandissante dans la mobilité décarbonée, c'est les acteurs des semi-conducteurs, des composants électroniques. Là où en Europe, on a les leaders mondiaux, je pense notamment à ST Microélectronique, un acteur franco-italien qui est leader dans les composants pour les véhicules électriques, l'électrification de l'industrie, mais aussi tout ce qui est véhicules autonomes, avec des partenariats très forts avec des acteurs leaders comme Mobileye sur l'ADAS et les véhicules autonomes, Tesla, leader des véhicules électriques, et qui est d'ailleurs leader sur une technologie très innovante qui s'appelle le carbure de silicium, qui est le premier fournisseur de cette technologie à Tesla, et qui est dans tous ses véhicules. Donc, des perspectives très attrayantes pour cette valeur, avec une amélioration des marges, et assis sur des tendances très fortes qui sont l'électrification des véhicules et de l'industrie. Pour nous, ça, c'est une première tendance intéressante pour jouer cette mobilité décarbonée.
STM.
Et STM, exactement. Une autre tendance qu'on trouve très intéressante, c'est le besoin d'investissement en infrastructure. Parce que le passage à cette mobilité décarbonée, à ces véhicules électriques, ça va demander un effort très important au réseau et beaucoup de demandes d'électricité. Et on a une valeur comme Alphen, valeur néerlandaise, qui est très bien positionnée sur ces technologies d'électrification. Un des leaders européens sur les bornes de recharge électrique, mais aussi sur tout ce qui sont les technologies de stockage d'électricité et de smart grid, de réseau, qui permettent de répondre à cette demande grandissante. Et je dirais qu'une autre tendance qui est, alors là, plus, on va dire, en démarrage, c'est tout ce qui est mobilité hydrogène.
Ah voilà, parce qu'on parle beaucoup du véhicule électrique, mais l'hydrogène sera peut-être l'étape suivante, ou pas d'ailleurs, ça va dépendre peut-être des profils de véhicules. Sur l'hydrogène, vous investissez sur l'hydrogène, le véhicule à hydrogène, c'est une thématique pour vous d'investissement.
Absolument, mais on joue moins ce côté véhicule à hydrogène, plutôt côté besoin d'infrastructure.
D'accord.
Avec un acteur français qui s'appelle Hydrogen Refueling Solution, HRS, qui est pionnier et pure player des infrastructures de ravitaillement d'hydrogène et qui est d'ailleurs le catalyseur clé de cette mobilité hydrogène, avec des partenariats très intéressants, notamment avec des acteurs connus du secteur comme Hype, Plug Power ou la région Auvergne-Rhône-Alpes et sa Hydrogen Valley, et qui est une autre manière de jouer cette mobilité décarbonée sans avoir nécessairement besoin de s'exposer aux véhicules électriques et, comme vous le dites très bien, ce secteur automobile qui peut être challengé par cette compétition chinoise.
Trois valeurs donc que vous détenez en portefeuille et vous en êtes fiers, vous les mettez en avant aujourd'hui: HRS, Alphen et ST Microelectronics. Oscar Barrault est analyste action pour Mirova. Merci beaucoup d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Bourse.
Merci Guillaume.
Le CAC 40 est toujours en progression en ce moment. Notez à Wall Street la nouvelle belle hausse du groupe de médias de Donald Trump qui s'est introduit hier. Hier c'était un carton, le titre avait gagné pour sa première séance de cotation plus de 30%. Ça continue, plus 15% encore aujourd'hui pour cette valeur. Et puis un autre titre beaucoup plus gros qui signe un plus haut historique à Wall Street, c'est Merck. Merck gagne 3,8%. On s'en reparle dans un instant, juste après la pause. Vous pouvez aussi, bien sûr, consulter l'ensemble de nos articles. Cet article, par exemple, consacré au titre H&M sur notre site BFM Bourse. Il est en ligne, bfmbourse.com, pour consulter cet article. H&M cartonne, plus 15% en bourse aujourd'hui. Les collections de printemps d'H&M enchantent les clients. Et la marge brute annoncée à l'occasion de la publication également. On y reviendra aussi dans un instant. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et la famille qui se réunit jusqu'à 17h chaque après-midi, Julien Marion, les équipes web de BFM Bourse, bfmbourse.com, il est avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour Guillaume.
Ça va ?
Pour les gens qui nous écoutent à la radio, j'admire Guillaume sous un angle nouveau.
Oui, puisque vous êtes d'habitude à ma gauche, vous êtes cet après-midi à ma droite.
Tout à fait.
Effectivement. Ça fait quoi ?
Ça change un peu.
Mieux ou...
Non, je plaisante.
C'est vrai que certains invités ont un profil privilégié. Mais je préfère être assis à droite ou à gauche du présent. On ne dira pas qui. On le gardera pour nous. Bon, du côté des marchés, il est beau le marché, sous tous les profils, sous tous les angles. En l'occurrence, notre CAC 40 s'est même offert il y a moins d'une heure un nouveau record historique à combien ? 8230 points.
Oui, il a un nez Cyrano de Bergerac qui ne cesse de s'allonger. Tellement. Oui, en fait, on progresse quand même très calmement. Il y a pas aujourd'hui, c'est quand même une journée de transition et c'est même une semaine de transition, à pas se mentir, avec le vendredi saint qui arrive. Il y a le PCE vendredi, mais le marché sera fermé. Il y a quelques indicateurs d'inflation demain et ça devrait tout. Ouais. Et heureusement qu'on a quelques entreprises étrangères comme H&M que vous avez évoqué juste avant, qui carbure à Stockholm. Sinon, ça reste quand même très mesuré, les volumes comme les variations.
Alors on a eu des chiffres d'inflation en Espagne, elle réaccélère un peu l'inflation en Espagne, mais moins qu'attendu. Puis la Banque de Suède, sans surprise, choisit le statu quo. Elle ouvre la porte néanmoins, la Banque de Suède, à une première baisse de taux. Pourquoi pas, on verra, pourquoi pas dès le mois de mai. Ce sera à suivre, bien évidemment. En tout cas, nouveau record sur notre CAC 40. Ben, ça fait plaisir, même si la séance est calme, hein, comme tous ces derniers jours, comme toutes ces dernières séances, on progresse d'à peine 0,3%, mais ça nous a permis de toucher un nouveau plus haut historique. C'était il y a à peu près une heure. Romain Dobrit avec nous pour Bourse Direct. Bonjour, Romain. Quels signaux ce record du jour sur le CAC 40 envoie-t-il pour la suite?
Bonjour. Eh bien, pas de signaux très forts, effectivement. Ce qu'on regarde du côté des intérêts, c'est qu'encore une fois, il n'y a aucun intérêt qui se déclare depuis toujours l'échéance des marchés dérivés du mois de mars. On a progressé hier de 0,40% sur l'Eurostock, 0,41% sur le CAC 40, et la position ouverte, le nombre de contrats futurs a diminué. C'est-à-dire que la hausse se fait faute de vendeurs, faute de pression baissière, et on le voit, les volumes le traduisent aussi, même si sur le S&P on peut noter un tout petit peu une légère pression baissière hier dans un mouvement de baisse, c'est moins rayonnant du côté des indices américains depuis quelques jours, 3-4 jours sur le S&P, une quinzaine de jours sur le Nasdaq où c'est un peu décousu. Mais du côté des intérêts, la moyenne du nombre de contrats futurs traités sur le CAC 40, c'est à peu près 60 000. La progression d'hier, elle s'est faite avec 35 000 contrats futurs. Là, en ce moment, on progresse aussi aujourd'hui, mais avec 26 000 et 27 000 contrats futurs traités à l'instant, et c'est pas beaucoup. Donc, il n'y a pas vraiment de soutien dans ce mouvement-là, c'est plutôt un peu un mouvement qui se fait faute de vendeurs, et les marchés sont un peu happés dans un trading range, c'est plutôt des algorithmes qui traitent ça. Puis, il faut dire qu'effectivement, le moment était peut-être un peu propice à une prise de bénéfice, puisque, vous l'avez dit, il y a effectivement ce week-end prolongé avec le week-end de Pâques, férié à Paris et aux États-Unis vendredi, et férié aussi lundi à Paris. Et puis, il y a le fait qu'il y aura demain la dernière séance du trimestre du mois de mars, et que c'est aussi le terrain d'équilibrage de position de fin de trimestre sur des fonds équilibrés, justement. Et donc ça peut créer des mouvements un petit peu d'ampleur. Mmh. Il y a un autre élément à prendre en compte, c'est que l'indice PCE donc d'inflation va être publié vendredi, alors que les marchés seront fermés. Peut-être de quoi être un peu prudent avant ça.
Effectivement, un peu prudent, mais ça n'empêche pas le marché de progresser. On a le sentiment que par défaut, le marché choisit à chaque fois de progresser. Alors, on disait le marché est plutôt prometteur, sympa, accommodant sous tous les angles. C'est pas si vrai que ça. Les volumes sont pas très élevés, la volatilité reste faible, et même si on a un nouveau record du CAC aujourd'hui, Romain, sur les 10 dernières séances, le CAC ne fait rien, pas plus de 129 points d'écart entre le plus bas et le plus haut sur les 10 dernières séances pour le CAC 40. C'est l'écart 10 séances le plus faible sur le CAC en quasiment 4 ans.
Effectivement, donc ça aussi, c'est dire qu'il y a une absence de densité, absence d'intervenants. Encore une fois, on a du mal à recréer de l'intérêt sur des points hauts de marché, et on attendrait peut-être des replis pour rentrer dans ce marché. En contrepartie, il n'y a pas de vendeurs, on n'a pas de pression baissière du tout, et donc c'est pour ça qu'on a ce sentiment de lévitation un peu. Alors le fait est que effectivement il y a peu de volume, il y a aussi un peu de divergence, pas des fonctionnements synchronisés entre les différents indices. Alors aujourd'hui, le CAC 40 a formé un nouveau plus haut historique, mais ça fait plusieurs jours que lui ne faisait plus rien depuis maintenant le 13 mars dernier, alors que le DAX et l'Eurostox marquent des nouveaux plus hauts tous les jours. Puis sur les indices américains, ça patine depuis une dizaine de jours sur le Nasdaq, même si on a formé un peu des nouveaux plus hauts, mais c'est assez décousu, et sur le S&P depuis quelques séances. Donc il y aurait peut-être besoin de resynchroniser tout ça. Mm-hmm. Pour l'instant, sur le futur CAC 40, on évolue dans un trading range un petit peu élargi, c'est 8146 en bas, 8242 en haut. Il faudrait clôturer au-delà d'une de ces bornes pour considérer une réactivation d'une tendance franche. Ça n'est pas le cas pour l'instant, donc on reste toujours assez neutre. La médiane, c'est 8194. Si on passe en dessous, eh bien le biais est plus baissier. Tant qu'on reste au-dessus, c'est un petit peu plus haussier en intraday.
Bon, beaucoup de points hauts aujourd'hui, beaucoup de records. Le CAC 40, on le disait. Le DAX aussi est sur un nouveau plus haut historique. La bourse de Milan également est sur un nouveau plus haut historique. L'Eurostock 50 est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui. Et l'Eurostock 600 aussi est sur un nouveau record. Voilà la séance du jour résumée, même si les variations reste relativement faible. Du côté des différentes classes d'actifs et des valeurs, vous avez repéré Sanofi. Sanofi qui gagne aujourd'hui 0,6%. Quel potentiel technique, de votre point de vue, sur cette valeur Sanofi?
Il y a encore éventuellement une dizaine de pourcents à prendre à la hausse. Comme vous l'avez compris, ce marché qui flotte un peu en absence de volume nous laisse à penser qu'il peut y avoir des trous d'air. Il n'y a pas de retournement de tendance, pas de choses méchantes, mais un petit peu de prise de bénéfice, pourquoi pas, à court terme, et des marchés qui pourraient, bien, en étant un peu complaisants, retracer. Donc on va prendre des valeurs un peu défensives. Or, Sanofi, elle a bien réagi sur le bas de son canal haussier de long terme à 81,79. Alors, c'est un peu loin maintenant, elle cote 91,84 à l'instant, mais elle a un parcours haussier propre et elle s'approche de sa résistance majeure à 93,35. Si elle déborde ce niveau, elle a un potentiel aussi assez intéressant pour aller chercher la zone 101,50, 104,30. On va privilégier ce genre de titres pour l'instant et avoir une part de cash dans les portefeuilles pour bien se replacer éventuellement dans les jours ou semaines qui viennent, si le marché veut consolider un peu.
Sanofi, donc, merci beaucoup Romain Daubry avec nous, puis Bourse Direct, on vous retrouvera à la clôture des marchés. Puis aussi dans l'univers de la santé, une valeur sur un plus haut historique, un record, Merck. Oui, il n'y a pas que les GAFAM qui soient sur des records. Merck aussi est sur un nouveau plus haut historique aujourd'hui, plus 4%, puisque la FDA approuve le Winrevair contre, c'est un traitement en fait, contre l'hypertension artérielle pulmonaire. Chaque injection, $14 000. $14 000 l'injection.
Beaucoup Merck & Co, de... j'imagine.
Effectivement. Et ce sont des marges à venir pour Merck. Le titre donc sur des plus hauts historiques cet après-midi à Wall Street, dans une séance qui se passe bien aussi là-bas. On suit aussi le secteur bancaire. Alors ça, vous y consacrez d'ailleurs un article, vous y consacrez même plusieurs articles depuis plusieurs jours, Julien, sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com, parce qu'on assiste depuis quelques séances à une véritable bataille d'analystes autour du secteur bancaire. Énormément de changements de recommandations sur le secteur en ce moment.
Oui, un grand ménage de printemps. Moi, je vous propose d'y aller banque par banque, en fait.
Allons-y banque par banque, alors. On va démarrer peut-être par la Société Générale, dégradée Société Générale par Deutsche Bank, qui passe aujourd'hui d'achat à conserver.
Oui, et d'ailleurs, en fait, Morgan Stanley avait fait à peu près le même cheminement lundi. La terminologie diffère, mais l'idée, c'est la même. En fait, les deux banques font à peu près le même constat sur Société Générale. Elle, ça va pas assez vite sur la cession d'actifs, tout simplement. Société Générale, si vous voulez, il pèse en fait la possibilité de vendre des actifs non core, pas essentiels à leur activité. Ils sont entrés en négociation exclusive fin de l'année dernière pour vendre des actifs dans plusieurs pays africains. Mais en fait, si vous regardez, il y a eu plein d'informations de presse qui parlaient de plein d'autres transactions potentielles. On parle de banques privées au Royaume-Uni, en Suisse, d'une filiale allemande ou encore des métiers de titres. Mais officiellement, ça bouge pas beaucoup. Donc pour eux, il n'y a pas de raison d'aller à l'achat. Et en plus de ça, il y a les cessions d'actifs, mais en plus, il y a l'opérationnel. Et pour Deutsche Bank, il faut attendre encore 15 à 18 mois avant de voir des signes tangibles de redressement chez Société Générale via quelques leviers. Par exemple, vous savez, la fusion des banques des réseaux de banques de détail. Vous savez, il y avait Société Générale et Crédit du Nord, ils les ont fusionnés. Ou encore la montée en puissance de Boursorama, leur banque en ligne.
Société Générale, donc, et Deutsche Bank qui dégrade d'achat à conserver. On peut aussi dire un mot du Crédit Agricole. Là aussi, bataille d'analystes et c'est absolument dingue. Sur le Crédit Agricole, Deutsche Bank passe à l'achat alors que Morgan Stanley passe à sous-pondérer.
Oui,
donc vendre.
Ouais. Oui, exactement. Vendre. Bon, allez, côté face, il y a Morgan Stanley qui vous dit... Bon, Crédit Agricole et ça, le problème, c'est que c'est pas si cher que, c'est assez cher, en fait. C'est dans la moyenne européenne, certes, en termes de ratio de bénéfices. Sauf que Crédit Agricole et ça, en fait, ça rend moins de cash aux actionnaires. Juste une parenthèse, Crédit Agricole et ça, pourquoi ils font pas de buyback de rachat d'actions? Parce que, en fait, ils sont détenus à 60% par les caisses régionales et que si vous faites de rachat d'actions, vous diminuez la liquidité et donc le flottant. Et ça, ils veulent pas. Oui. Donc ça, c'est un handicap pour eux. Donc, en gros, la banque est pas assez bon marché pour eux. Il y a mieux à faire ailleurs. Ça, c'est pour Morgan Stanley. Mais après, il y a le côté pile. Le chemin qui me dit qu'actuellement, vous allez avoir des baisses de taux directeurs et qu'en fait, il y a une conjoncture qui s'améliore un peu. Et pour eux, Crédit Agricole et ça, ils ont le mix d'activité idéal pour briller dans ce contexte, parce qu'ils ont des métiers très diversifiés et pas très gourmands en capitaux. 40% de leurs bénéfices, c'est des métiers asset light. Alors, ça veut dire quoi, les métiers asset light en banque? C'est l'assurance, la gestion de fortune, dans laquelle ils se sont d'ailleurs renforcés en rachetant une belge qui s'appelle de Groupe Petercam, ou encore la gestion d'actifs. Et en plus de ça, Deutsche Bank me dit, CASA, ils devraient, Crédit Agricole et ça, devraient dépasser leur objectif de bénéfice. Ils veulent faire 6 milliards en 2025. Deutsche Bank pense qu'ils feront 6,5 milliards.
Et Deutsche Bank qui passe donc à l'achat sur Crédit Agricole, tandis que Morgan Stanley, au contraire, passe à sous-performance, ou sous-pondéré, pour être très précis dans la terminologie de Morgan Stanley. Alors, que choisit le marché? Il choisit plutôt l'opinion de Deutsche Bank, puisque ce titre Crédit Agricole aujourd'hui progresse de 0,5%. On n'a pas parlé de BNP Paribas, pourtant il y a des opinions d'analystes aussi, des changements de recommandations.
Mardi, donc hier, Goldman Sachs est passé à l'achat et juge que BNP tiendra ses objectifs, que ce soit cette année ou en 2025. Ce qui n'est pas le cas dans le consensus. Le consensus est un peu en dessous. Et en fait, pourquoi? Alors, le gros truc qu'ils mettent en avant, c'est la BFI, la banque de financement et d'investissement. Pour eux, c'est le moteur de croissance de BNP Paribas à court terme comme à moyen terme, grâce notamment aux métiers liés au marché actions dans lesquels BNP possède un éventail d'offres complet dans plein de régions. Juste pour donner un chiffre, pour eux, les revenus de la BFI de BNP Paribas, ils passeront de 16,5 milliards d'euros l'an passé à 18,7 milliards en 2026. C'est une croissance de plus de 6% par an. Donc voilà, la BFI tirera.
Oui, mais ça convainc le marché, le titre BNP Paribas sur le secteur bancaire français signe la plus forte hausse, plus 1,3%. Des trois grandes banques françaises, c'est celle qui aujourd'hui progresse le plus. Effectivement, beaucoup de changements de recommandations sur le secteur bancaire, une bataille d'analystes depuis le début de la semaine. Vous y consacrez cet article sur notre site BFM Bourse. Ce soir, après la clôture, qui publiera ses résultats? Ce sera Trigano, le spécialiste des camping-cars. On en parlait tout à l'heure dans Valeur Ajoutée à 16h10 avec les experts d'IDMICAPS qui sont positifs, Ils sont plutôt optimistes sur la publication à venir. Ils nous ont fixé d'ailleurs et proposé un objectif de cours assez ambitieux sur Trigano. Si vous avez raté le direct, le replay est à suivre, est à venir sur notre site BFM Bourse également. 16h43, voici venu le moment de la question du jour. Chaque jour, on vous interroge, vous tous qui nous suivez à la radio et à la télé, aussi sur nos réseaux sociaux, notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Et la question du jour qu'on vous pose concerne l'Allemagne. Les instituts économiques allemands abaissent drastiquement leur prévision de croissance cette année pour l'Allemagne, passant d'une prévision de croissance d'1,3% à seulement 0,1%. Un incroyable abaissement de la prévision de croissance sur l'Allemagne. Pour vous, la BCE va-t-elle du coup devoir baisser ses taux plus tôt que prévu cette année ? Oui ou non ? Pourra-t-elle attendre le mois de juin comme prévu initialement ? On vous pose cette question, vous êtes assez nombreux d'ailleurs à y répondre. Est-ce que vous pensez, Julien, franchement et entre nous, que la BCE va devoir accélérer son calendrier de baisse de taux ?
Non, alors si, très sincèrement, lors de la dernière réunion, on avait vraiment le sentiment que Christine Lagarde a donné un rendez-vous en filigrane en juin, et je pense qu'ils s'en tiendront à ça. Avril, c'était encore un peu tôt. Maintenant, tous les voyants, enfin, de mon point de vue, les voyants amènent à penser que là, c'est juin, c'est la bonne fin de tir, alors que ce n'est pas forcément le cas pour la réserve fédérale. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on voit un peu la conjoncture et les données, on a peut-être l'impression qu'il va falloir que la BCE, ben, elle prenne l'initiative avant la réserve fédérale, si vous voulez.
Oui, parce que la croissance en Europe est plus faible que la croissance américaine, par exemple. C'est-à-dire que beaucoup d'experts nous disent, si Jerome Powell était à la tête de la BCE, il aurait peut-être déjà commencé à baisser les taux.
Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Guillaume, mais j'ai l'impression que là où Christine Lagarde et le conseil des gouverneurs de la BCE semblent avoir une approche réaliste, c'est pas délirant de baisser les taux en juin, on a plutôt l'impression que la Fed, elle commence à avoir une attitude dovish, accommodante, quand on voit les projections la semaine dernière, les dot plots, alors que la conjoncture se tient.
Oui, c'est-à-dire que des baisses de taux aux États-Unis alors que l'inflation tente à réaccélérer, vous dites ça peut être une stratégie finalement plus dovish que réaliste, quoi. Enfin, en tout cas, peut-être plus que celle de la Banque Centrale Européenne. On aura mille fois l'occasion d'y revenir. Et vous qui avez répondu nombreux à cette question sur nos réseaux sociaux, qu'avez-vous voté? Et comme Julien, voilà, bravo Julien, parce que vous êtes toujours dans la majorité d'ailleurs, j'ai remarqué. Vous pensez que la nouvelle prévision de croissance sur l'Allemagne ne changera rien du tout au calendrier de la BCE. Elle baissera ses taux pour la première fois à partir du mois de juin, comme prévu jusqu'ici. 47% d'entre vous votez pour le mois de juin, seulement 26% pour une première baisse de taux finalement anticipée. Continuez de voter, nous apportez vos commentaires, vos arguments, on rebondira dessus aussi dans le club à partir de 17h. Alors il y a l'Allemagne d'un côté, bien sûr, puis la France de l'autre, toujours ce match France-Allemagne. Si la France peut s'enorgueillir d'avoir une croissance plus forte que la croissance allemande. En revanche, du côté des déficits, c'est moins brillant. Le déficit français est largement supérieur au déficit allemand. On va en parler, c'est l'objet du bullshitomètre avec Thibaut Prébé. Il nous rejoint, Thibaut Prébé, pour Arbevel. Effectivement, chaque jour, un expert de marché vient déconstruire les idées un peu trop faciles. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Bouh, la France et son déficit qui grimpe encore à 5,5% du PIB. Tout le monde dit pique-pendre de la France depuis hier, mais pour vous, cette hausse du déficit français, c'est pas un souci. Vous dites à ceux qui critiquent la France, bullshit ! Vous foudroyez. Cette idée selon laquelle la hausse du déficit français serait grave.
Ben oui, c'est vrai que moi je suis un optimiste, vous le savez, j'aime bien voir la vie en rose, et là on est vraiment dans un mode painted black, tout va mal, c'est terrible, la France c'est une catastrophe, le déficit est très élevé, déficit qui intéressait plus personne depuis quelques années, puis là ça revient, ça intéresse les gens, c'est tragique en France, même si aux États-Unis c'est beaucoup plus, mais tout le monde s'en fout, il y a cette idée que voilà, on est sur un déficit catastrophique, et je pense que prendre un peu de temps pour analyser qu'est-ce qu'un déficit, à quoi ça se compare, à quel type de ratio. Est-ce que ça se dégrade vraiment en France ? Est-ce que c'est mieux ailleurs ? C'est tout un programme qui ne peut que nous rassurer. Voilà, comme toujours, hein, quand on se compare, finalement, c'est pas plus mal. Et je pense que ce petit travail mérite ces quelques minutes de bullshitomètre, parce que je pense qu'on raconte un petit peu n'importe quoi sur ce déficit.
Donc c'est une ode au déficit que vous venez nous proposer aujourd'hui, plaidoyer pour les déficits
Pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout mon style. Moi, je suis quelqu'un de raisonnable. Je pense juste.
On est rassuré. Hein.
Je pense que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un déficit ? Comment vous définissez ça ? Le déficit, c'est l'évolution d'un solde budgétaire. Si vous rentrez chez vous, que votre compte en banque a 10 000 euros de moins parce que vous avez acheté quelque chose, ou 10 000 euros de plus parce que vous avez des revenus, en fait, votre raisonnement va être de comparer votre dette, par exemple immobilière, à vos revenus. Voilà, vous allez calculer votre ratio d'endettement. Et en fait, si vous avez un peu plus de dette que l'année d'avant, mais que vos revenus ont doublé, ça ne va pas vous paraître une mauvaise nouvelle. Donc on calcule ça normalement en termes de ratio d'endettement, comment évolue notre dette. Or, il se trouve qu'on a passé des années où il n'y avait pas de croissance, pas de déficit. Sauf en France, sauf aux États-Unis, et pas d'inflation. Donc en fait, vous disiez, bon, y a quasiment zéro d'inflation, quasiment zéro de croissance, donc en fait, s'il y a du déficit, forcément, la dette augmente. Mais en réalité, quand vous êtes proche de 100% du PIB, vous avez votre dette, votre PIB. Votre PIB, il augmente de la croissance nominale, c'est-à-dire de la croissance plus l'inflation. Mmh. Votre dette, elle augmente du déficit. Mais en réalité, aujourd'hui, la croissance nominale en France, elle est supérieure depuis quelques années à votre déficit. Donc quand on est au voisinage de 100%, en fait, ce ratio, il est en train de baisser. Et donc cette idée qu'il y a une méga cata, alors effectivement, il ne faut pas non plus être idiot, l'idée qu'on n'arrive pas à faire baisser vraiment les déficits, ce n'est pas complètement rassurant, oui. Mais...
50 ans de suite de déficit en France. Voilà.
Ouais. Mais depuis 2020, on avait atteint par exemple des ratios d'endettement français à 115% du PIB, ça a baissé tous les ans. Donc cette idée qu'on est en train d'exploser alors qu'aux États-Unis ça augmente, bah, c'est à mon avis une vision qui est, qui est monocritère, qui n'est pas très cohérente avec la réalité.
Parce que vous êtes mono-exemple, vous citez la France par rapport aux États-Unis. C'est vrai qu'aux États-Unis, le niveau de déficit sur PIB est plus élevé qu'en France. Mais si on compare la France à l'Allemagne, à l'Espagne, au Portugal, la France n'est pas une bonne élève.
Oui, c'est vrai. Après, encore une fois, il y a aussi des pays qui ont moins eu de croissance nominale ces dernières années que la France. Donc, il faut aussi comparer ces deux agrégats qui sont comparables. Mmh. Et ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important. Et puis, deuxième point, il faut voir si on a de l'épargne. Parce que c'est bien d'avoir une dette qui est de qualité ou pas, mais il faut des gens pour l'acheter. C'est la même chose pour l'entreprise. Hein. Vous calculez souvent des dettes nettes sur l'EBITDA. Bah, si votre EBITDA il augmente, c'est quand même important de le savoir avant de regarder comment la dette nette a évolué. Et après, il faut voir si votre entreprise attire des capitaux. Là, la France, elle a quand même un certain nombre de bons critères. Alors, pourquoi, à mon avis, c'est pas si grave non plus? C'est pas si grave non plus parce que, en réalité, on est nombreux à avoir le même problème de dette. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une période où personne n'avait de dette publique et on trouvait que 60, c'était colossal. Aujourd'hui, en fait, c'est un problème global. Si vous découpez le monde en trois grandes zones, vous prenez les États-Unis, l'Europe et l'Asie, avec le Japon en mauvais élève, la Chine en bon élève. En réalité, toutes ces zones ont un problème de dette publique. Toutes. Et en fait, une théorie que je voudrais développer, c'est une théorie comme quoi quand quelqu'un a un problème, il a un problème. Quand tout le monde a le même problème, personne n'a de problème. Vous prenez les sociétés qui sont en difficulté, elles font faillite. Mais quand vous avez le Covid et que tout le monde est en difficulté, bah, vous sortez des PGE et finalement, tout le monde s'en sort. Quand un pays a un problème de dette, bah, comme l'Angleterre il n'y a pas si longtemps ou la Grèce il n'y a plus longtemps, il est vite en difficulté. Quand tout le monde a la même chose, bah, toutes les banques centrales rachètent de la dette et ça marche bien. Donc si on regarde ces trois grandes zones, en fait, au niveau du déficit, c'est un peu to be three or not to be. Bah, soit tout le monde a le même problème, tout va bien, soit... Ouais. Personne n'a ce problème ou un seul a ce problème et là, mais il est vraiment mal barré.
C'est terriblement ingrat pour les Allemands, par exemple, qui sont beaucoup plus exemplaires que la France sur cette question des déficits et pourtant dont l'écart de taux avec la France ne s'accroît pas. C'est-à-dire que les Allemands sur le marché obligataire ne nous mettent pas la pâtée malgré leur politique budgétaire beaucoup plus orthodoxe.
Non, parce que le marché s'y intéresse, il faut bien l'avouer, assez peu et puis il faut tout pour faire un monde. C'est-à-dire que c'est un équilibre qui va ensemble. Je vous rappelle que bon, quand on a cette crise entre l'Allemagne et la Grèce, crise diplomatique, en plus de la crise de la dette grecque, bah, voilà, faut se rappeler qu'à un moment, on était quand même face à un pays exportateur qui critiquait un importateur de trop dépenser. Enfin, il y a un moment, il faut des gens pour produire, des gens pour consommer, il faut tout. Donc, c'est vrai qu'on est dans cette situation. L'Allemagne.
C'est l'œuf et la poule qui s'insultent.
Ouais, l'Allemagne est effectivement, il faut bien l'avouer, plus vertueuse sur ce sujet, ce qui amène d'autres difficultés, parce que du coup, bah, elle finance pas l'économie, elle est pas relais pour l'économie européenne. Et ce qui est amusant, c'est que vous le dites. L'Allemagne est un bon élève, mais le meilleur élève qu'on célèbre sur cette antenne, c'est les États-Unis, qui a plus de déficit et qui, pour le coup, ne réduit pas sa dette. Mmh. Vous voyez bien que c'est intéressant de voir que les États-Unis, avec plus de déficit et moins de réduction de dette que la France, c'est un très bon élève. L'Allemagne, avec beaucoup moins de déficit et moins de croissance, c'est un bon élève.
Je suis sûr de vous suivre sur pourquoi les États-Unis sont un bon élève.
Bah, tout le monde célèbre l'économie américaine aujourd'hui. Vous voyez qui vous dit que l'économie américaine est pourrie? Tout le monde vous dit que c'est génial.
Non, mais il commence à y avoir. Mais si vous regardez un petit peu, il y a quand même des alertes sur le niveau de déficit des États-Unis. Moi, j'ai cru en voir passer un qui dirait que qu'après l'élection, si les États-Unis s'attaquent pas à ce problème, ils risquent d'avoir un moment à la Trussell, vous rappelez. Donc, ce qui s'était passé à l'automne 2022, ouais, enfin, bonne.
En vrai, tout le monde s'en fout. Sur les taux américains, il se passe rien. C'est uniquement lié au monétaire, la pente elle est très faible, puis il y a des acheteurs de toutes les maturités américaines. Alors même que je vous rappelle, les États-Unis ont besoin d'attirer des capitaux. Ils n'ont pas une épargne excédentaire. Et ils y arrivent, alors que leur dette n'est pas sexy. Il n'y a rien là-dedans. Quand on regarde les agrégats qui fait envie, il y a juste cette force du dollar. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, on est à mi-chemin entre des gens que tout le monde estime être des très bons élèves et nous on est nuls. C'est assez français comme manière de voir les choses. Mmh. Je trouve qu'économiquement, ce n'est pas très important, même si vous pourriez me le dire, les gens s'inquiètent effectivement un peu des sujets de notes.
Alors, non mais. Très bien. Quand on se regarde, on se fait peur. Quand on se compare, on se rassure. Quand on se compare aux États-Unis, notamment, on a un niveau de déficit sur PIB inférieur à celui des Américains. Et c'est ce que vous dites. Cocorico! Les Américains font pire que nous. Sauf que eux, ils dépensent pour leur avenir. Pour les investissements qui permettront la croissance de demain, améliorer peut-être leur potentiel de croissance. Nous, c'est pour des dépenses de fonctionnement. C'est là que c'est peut-être un petit peu plus embêtant, quand même, malgré tout.
Ouais, c'est pas non plus hyper clair, hein. Les États-Unis, ils avaient un déficit d'infrastructure parce qu'ils avaient déjà une dette très élevée. Donc ça veut quand même dire que cette dette, elle est partie ailleurs. La réalité, c'est que les États-Unis sont rentrés dans un mécanisme assez pathétique. De dire qu'on baisse énormément les impôts, donc on a trop de déficit, donc on casse le déficit et la dette maximum. Donc, on est obligé de faire une négociation pour augmenter le plafond de la dette dans la Constitution. Mmh. Et là, certains députés disent... on ne montera pas, sauf si on garde les baisses d'impôts. Ce qui nous assure qu'on va le répéter. Donc on est en une spirale.
Ça, c'est, enfin,
c'est pas glorieux non plus. Hein. Il n'y a rien là-dedans de magnifique. Ah oui, il y a des vrais plans d'infrastructure, mais c'est pas tout.
Ça, c'est la politique. Mais les États-Unis, la force qu'ils ont avec le déficit, c'est surtout qu'ils ont le dollar. Ça leur accorde une liberté, un champ de manœuvre. Le Japon, ils ont une dette domestiquée, ils ont le dollar.
Quoi.
Et nous, on a quoi?
Ouais, mais les États-Unis, ils ont le dollar parce qu'ils ont cette crédibilité. La crédibilité, ça va, ça vient. Hein. Il y a des pays où on est, le Royaume-Uni, c'était hyper crédible tout autant que les États-Unis, puis c'est devenu guignol en pas longtemps. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un statut, ça peut évoluer. Et il y a un moment où si la dette américaine, elle continue, ça peut lasser un moment. Puis c'est beaucoup la Chine qui finançait parce qu'elle avait des excédents avec les États-Unis qu'elle ne voulait pas rapatrier. Elle en a peut-être moins. Donc je ne dis pas qu'il y a une inquiétude, juste que l'idée que la France est au cœur des problèmes de dette me semble une analyse. Trop pessimiste.
Le 26 avril, les agences de notation Moody's et Fitch actualiseront la note de la France. Le 31 mai, ce sera au tour de Standard & Poor's. Est-ce que la note de la France sera à nouveau ou la perspective de la note dégradée?
Alors, j'aurais deux réponses. Un, c'est probable. Deux, tout le monde s'en fout. c'est probable parce que la réalité est que la qualité intrinsèque de la dette française, comme celle de quasiment tous les pays, s'est dégradée parce que les endettements ont progressé, que les marges de manœuvre fiscales ont régressé et que la dynamique démographique fait que les ratios de dépendance et donc les équilibres sociaux vont être de plus en plus délicats. En revanche, je vous le rappelle quand même, les agences de notation, par exemple, pour les investisseurs, ont un impact. Vous êtes une caisse de retraite, une mutuelle, un assureur. Quand vous achetez une obligation d'entreprise, la notation a un impact sur le coût en capital. Donc, elle vous aiguille vers des sociétés bien notées. Les emprunts d'État ont un coût de zéro. Donc, si la dette française est dégradée, toutes ces sociétés qui achètent des emprunts d'État, forcées d'ailleurs par l'État, ne modifieront en rien leurs habitudes. Donc, c'est évidemment un sujet. Sur le très long terme, c'est quelque chose qui peut bouger, mais vous vous souvenez par exemple de la perte du triple A américain, c'est censé être un truc absolument catastrophique, ça n'a rien fait. La réalité est que beaucoup de pays ont perdu des degrés de notes et le marché n'est pas passionné par ce genre de choses.
Non, c'est vrai, et le 10 ans français n'a absolument pas souffert de la publication du déficit public hier. Thibaut Prébé, le bullshitomètre, que vous pourrez retrouver dans quelques minutes en replay également. Vous restez avec nous, Thibaut? Il nous reste 3-4 minutes à passer ensemble en famille.
Avec plaisir.
Cousin Thibaut. Le CAC 40, 16h55, est toujours en progression. On vous rappelle qu'on a touché un nouveau plus haut historique tout à l'heure sur le CAC 40, en milieu d'après-midi, à 8230 points. Et pourtant, la volatilité reste faible. C'est l'objet du Factor X du jour. On vous suit sur les réseaux sociaux. Et on a repéré ce tweet, cette publication de Lance Roberts. C'est son nom. Il nous dit, Lance, que les indices de volatilité restent toujours incroyablement bas, signe selon lui d'un optimisme de marché désormais devenu extrême.
J'ai envie de dire que la séance d'aujourd'hui l'illustre à merveille. On progresse, il ne se passe rien et on progresse. Doucement, calmement, c'est peut-être un signe de vitalité. D'autant que, comme on l'a dit en début de séance, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Néanmoins, est-ce qu'on a du carburant pour aller plus loin? JP Morgan nous l'a dit il y a deux semaines, non. Eux, ils pensent qu'on sous-estime certains risques de marché, notamment l'effondrement de l'épargne chez les ménages.
JP Morgan attend une baisse du S&P de 20%. Ouais. Voilà.
Goldman Sachs nous dit, bon, on va rester à peu près où on est, mais ils ont un scénario haussier où l'IA porterait, accélérerait et ferait progresser le S&P des cours actuels d'environ 15%. Donc, choisissez votre avenir, mais pour le moment, le marché, il décide que ça monte.
Des marchés qui montent avec une si faible volatilité, c'est bon signe ou mauvais signe? Est-ce que le marché dort debout quelque part, Thibault?
Les marchés montent toujours avec une assez faible volatilité en réalité. Les périodes de forte volatilité, c'est les périodes de baisse. C'est toujours un peu la même chose. Des séances à plus 3, c'est souvent des séances qui sont précédées et suivies par des moins 4. Donc, je veux dire, les grands marchés haussiers. Je vous rappelle, je crois que c'était 2019, je ne sais plus, il y a une année, il y a eu 5 séances de variation à plus d'1%. C'était une excellente année sur les États-Unis. Donc, je veux dire, une année qui s'attendait comme très volatile, compliquée, guerre commerciale, machin. Et en fait, ça bougeait de 0,20 tous les jours. La réalité, c'est que c'est ça, les marchés haussiers. Voilà, il y a beaucoup d'analystes qui sont payés pour faire des prévisions. Je trouve que c'est difficile dans notre métier à trouver des scénarios à 1 ou 2 ans. Donc les prévisions d'évolution à court terme...
Ne pas avoir peur du calme, c'est ça en gros. Peur de l'absence de peur.
Non, mais le problème aussi, c'est que c'est vrai qu'on est mondialisé, donc on a accès à énormément d'informations, dont beaucoup d'entre elles sont anxiogènes. Donc le nombre de raisons de se faire peur et de se dire qu'il y a plein de raisons pour lesquelles ça pourrait baisser, c'est facile.
Mais il y a déjà beaucoup de mauvaises nouvelles. On est quand même dans un contexte géopolitique hyper tendu, beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont déjà dans les cours. Enfin voilà.
Ouais, puis on les
pas toutes, mais quand même un certain.
Non, mais je pense aussi qu'il y a l'expérience de voir que ces mauvaises nouvelles, de guerre commerciale en 2018, de Covid ou même de guerre en Ukraine, en termes d'impact microéconomique sur les entreprises, n'ont pas été colossaux. Donc les acteurs ont décidé que si ça changeait rien, on allait arrêter de les regarder. Bon, c'est bon. Bien ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça.
Les ventes d'actions tech, néanmoins, de la part des insiders, les ventes d'actions tech aux États-Unis sont à un plus haut de 3 ans.
Bah, il faut prendre les bénéfices au bout d'un moment.
Et voilà, pourquoi essayer de se faire peur. Ils ont raison de prendre des bénéfices, effectivement. Ah, oui. Mais s'ils prennent des bénéfices, c'est qu'ils pensent que ça va peut-être plus monter.
Non, parce que ils ont peut-être aussi le droit de monétiser leur
patrimoine. Oui, ils ont le droit. Effectivement, ils en ont peut-être besoin, ou pour des raisons fiscales ou autres. Bon, ben voilà. C'était la famille BFM Bourse. Cousin Thibault, merci d'être passé nous voir. Thibault Prédé.
Grand plaisir.
Arbevel, merci beaucoup.
Salut, frère Julien. Salut, grand frère Guillaume.
Julien Marion et les équipes Bourse, BFM Bourse, notre site. Bien sûr, d'ailleurs, il y a cet article très, très intéressant consacré, cet article à H&M. On en parlait tout à l'heure, plus 15,5% H&M, dont les collection de printemps enchante les clients et la bourse. La marge brute aussi largement supérieure aux attentes. On en a aussi beaucoup parlé dans la précédente demi-heure de l'émission. On en reparlera jusqu'à 18h. Merci la famille. Dans un instant, justement, la séance en direct, on va appeler Aude de Kersulek à la Tour Euronext, alors que le CAC 40 nous a donc gratifié cet après-midi d'un nouveau record. On s'en parle juste après la pause. A tout de suite.